Alors, dans la paracha de Vayikra, au début, on dit la paracha, elle est Stouma. Alors, vous savez, quand on dit paracha Stouma, ça ne veut pas dire le mot classique de paracha Stouma. Parce que, toujours dans la Torah, vous avez plein, plein de parachas Ptouchot et Stouma. Vous avez des P et des Samer dans la Torah. Ça correspond à un certain écart dans Sefer Torah de vide qu'il y a entre deux parachas. Il y a des interruptions, puis vous avez un vide, et puis ça rentre. Là, quand on dit Stouma, c'est que dans le Sefer Torah, je parle sous la supervision de notre émissaire, évidemment, la dernière passouk de la parashat Vayigash, le premier passouk de la parashat Vayeshev, ils sont suivis comme si c'était un seul le premier passouk de la parashat Vayeshev, ils sont suivis comme si c'était un seul la même chose de la suite. Alors Rashi ramène deux explications à ça que vous connaissez. La première, ah ouais, alors, parce que j'ai. Alors, Rashi ramène la pam, la parashat Truma. C'est fils qui va chez Niftar Yaakov Avinu, il se met au NM, il va chez Israël, il s'arrête à chez nous, parce que comme il est mort, Yaakov Avinu, il nous a quittés. Alors, ils ont été bouchés les yeux et le cœur des Juifs à cause de la souffrance de l'asservissement, parce qu'ils ont commencé le chiboud à ce moment-là. On va commencer, mais ça a rattaché. D'avoir à chez Bigesh, Nicolas, Tataket, il a voulu dévoiler la fin à ses enfants et ça a été caché. Et ça a été fermé de lui. Maintenant, il y a un troisième pirouche qui ramène le Ramouchet de Zohar. Le Zohar, il dit que c'est, en fait, la stima fait référence à ce qui a marqué ici, dans, je vous ai remis au début de Rachid dans Vayikra. Ma yuav. Et à quoi servaient les afsakot? L'iten revach les moshe, il donnait une paracha les parachas, pour laisser la place à Moshe de réfléchir entre chaque paracha, bénir entre deux sujets. Ouais, ça c'est Rachid explique, c'est pour ça qu'il y a des arrêts dans les parachiotes, tout le monde est plutôt. Et ici, le Zohar, il dit, il fallait pas mettre de revach, mettre paracha les parachas. Comme si en vérité la fin de Parashat Vayigash et le début de Parashat Vayikra, c'est le même sujet et c'est pas deux sujets différents, donc faut absolument pas les séparer. Ce serait une troisième proposition. Pourquoi on voudrait pas séparer? C'est parce qu'en vérité c'est le même sujet. Il n'y a pas de revach entre deux parachutes, parce que le revach il sert à séparer deux parachutes et puis ici il n'y a pas de séparation. Alors il y a marqué dans Chazal, c'est dans Tana de Béliou Rabba, que ces dernières années Vayikra Yaakov et Eretz Mitzrayim. Vaesreshana, il a vécu 17 ans en Égypte. Ça, c'était les plus belles années de Jacob Avinu. Et le Midrash, il dit même, Vetanan, Jacob, Vaesreshana, Samouklesignuto, Tovim, Ben Olamaba, ça ressemblait aux années qui sont comme l'Olamaba. D'accord? Donc, toute sa vie, Jacob Avinu, il dit, Be'at Verayim, Bayou, Yemechaya, Yveloïd, etc. Il dit, moi, ma vie, c'était une vie de souffrance, une vie difficile. Et puis, à la fin de sa vie, les derniers 17 ans, il a eu une vie extraordinaire. C'était le kiff. C'était en Égypte. D'accord? Et ça, c'est le début de la paracha. Maintenant, donc nous, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est le Maaseh Avot Siman Labanim qu'il y a dans cette histoire. On veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette fin-là de la fin des Avot, parce qu'en fait, ici, on a la fin des Avot. Yosef, c'est pas vraiment un Av. Il a une dimension un peu de Av, Yosef, mais c'est pas le sujet. Mais Yosef, c'est les Jevatim. Donc, il y a quand même, nous, c'est la fin des Avot, et nous, on sait que Maaseh Avot, Siman Labanim, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avec les Avot, c'est le chemin dans lequel ils ont marché, le chemin dans lequel ils ont marché, nous, on marche. Ils ont tracé le chemin, et nous, on fait que marcher dans leur chemin. Et puis, les événements se répètent constamment. Quel est le Maaseh Avot Siman Labanim qu'on apprend dans la fin de cette paracha, que Yaakov Avinu a vécu 17 ans en Égypte, et qu'il est mort, et tout ce qu'il y a par la suite, que on l'a enterré, que tout le monde l'a suivi, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut nous retenir de cette fin, de cette conclusion, de cette clôture? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut dire, Moshe Mira, c'est que le fin du Maaseh Avot Siman Labanim, c'est aussi la fin du chemin pour les enfants. C'est-à-dire, quand le dernier Av, il s'en va, alors, ça correspond à la fin des temps, à nous, ça correspond à la dernière époque. Parce que tout le Maaseh Avot Siman Labanim, il correspond à tout le chemin des enfants jusqu'au bout. Donc ici, on est à bout du chemin, au bout de notre chemin à nous. Donc, c'est ça qu'il veut analyser. Qu'est-ce que nous, on peut tirer de là? La première chose, il remarque quelque chose, que c'est une question personnelle à lui. Il dit, on remarque que dans la paracha de Mikesh, la paracha de Vaïgash et la moitié de la paracha de Vaïeshev, quand Yosef il va en prison, il n'y a plus le nom de Yud Kevafré, il disparaît. Il n'y a que le nom de Elohim, vous pouvez chercher. Moi, je n'ai pas cherché, je n'aurais pas dit. Jusqu'à Shema Israël, Shema Elohim, Shema Echad, c'est les enfants de Jacob qui ont dit, Yeshua Kecha Kiviti Hashem, dans la bracha de Dan. Il n'y a pas le nom de Yud Kevafké, il disparaît complètement. Il dit, c'est bizarre, pourquoi il disparaît complètement de Yud Kevafké? Donc, comme si ici, il y a un Esther, il y a une obscurité ici qui se passe, qui correspond à la galoute chez nous. Et quand le nom d'Hachem réapparaît, alors ça correspondrait à une Géoula. D'accord? Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, Ve'aya Hachem Melech al kol ha'aretz b'yom ahu Hachem echad ushmo echad. Et Hachem Yisra Roi, le nom d'Hachem Yisra echad ushmo echad. La Gemara dit, Atu ha'inna la v'echadu, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas echad? Rabbi Yachama Hanan, non. Lo ke olam mazeh olam haba. Le Olam Hazeh, le Olam Hazeh, c'est pas pareil. Il y a Olam Hazeh, Al-Besorot Tovot Omer, Ma'ukha Tovot Echim, Al-Besorot Ra'ot Omer, Ma'ukh Dayana Emet. On ne dit pas la même bracha sur le bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Le Olam Haba, Kulo Atova Metim. Le Olam Haba, tout sera Atova Metim. Ou Shmo Echad, Ma'i Echad, c'est quoi Shmo Echad? Est-ce que maintenant aussi il n'est pas Echad? Son nom n'est pas Echad, avant c'était Echad, maintenant c'est Shmo Echad. Marisra qui dit non, son nom il n'est pas Echad parce qu'aujourd'hui il est écrit Yud Kevavke, on le lit à l'Ev Dalet Minoud, et après, plus tard, on lira, il est écrit Yud Kevavke, on lira Yud Kevavke. Donc ça veut dire qu'il y a un Chissaron dans la Hardout, et ce Chissaron dans la Hardout s'exprime par le nom de Yud Kevavke. Que nous, le nom de Yud Kevavke, il n'est pas accessible tellement pour nous. On avait déjà parlé de ça. En vérité, dans ce monde-là, Yud Kevavke, c'est un nom qui éclaire d'une manière qui dit qu'il n'y a pas d'autre existence à part dans ce monde-là. Ça, c'est pas possible tant qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, parce qu'il y a forcément un besoin de Esther. On est dans le Esther, on est dans ce qui est caché, que je comprends, il ne peut pas se dévoiler complètement, sinon la notion même du travail, elle part. Alors, c'est pour ça qu'on est dans le schéma de nous, on se relie Yud Kevavke par le schéma de nous. Donc, en vérité, symboliquement, ça veut dire que si le Shemut Kevavke disparaît, c'est-à-dire le Shemut Kevavke par nous, quand même, ce qu'on appelle Anout, que nous on dit Anout, mais sauf, il y a quand même dans le Shemut Kevavke, quand il apparaît, pour nous, c'est le nom qui correspond à l'existence d'Hachem la plus élevée. Et donc, s'il disparaît, c'est quelque part qu'il y a un Esther qui se passe à la fin de séparation, il y a quelque chose qui se cache et qui n'est plus là. Alors, à quoi ça correspond? Alors, tout le monde sait que Yaakov Avinu, quand les frères ils sont revenus d'Égypte la première fois, ils lui ont dit, on ne repart pas tant qu'on n'a pas Yamin. Il leur a dit, Lama Arotami, pourquoi vous m'avez fait du mal? Rabbi Lévi, Bechem Rabbi Chama Bar Hanina, il a dit, mais Olam Lama Yaakov Avinu d'avoir marché le bataille. Jamais de sa vie, Yaakov Avinu a dit quelque chose de futile. Et la Kachama beaucoup, à part ici. Parce que Hachem, il a dit, Agnew Sek Lamnir. Et moi, je m'occupe de faire aîner son fils en Égypte. Et mon père, la Marotelli, pour m'a fait du mal. I, de ou Amar, Nistera, Darki, c'est caché mon chemin d'Hachem. C'est-à-dire, en fait, Yaakov Avinu ici, quand Yosef il est en Égypte et qu'il perd là, le roi Hakodesh, alors, il y a un, et même chez Yaakov Avinu, il y a une sorte de perte de la perception. Et il arrive à dire, la Marotelli, pour m'a fait du mal. C'est vrai qu'ils lui ont fait du mal. Mais. Les Farchim, il explique, c'est pourquoi on lui reproche cette phrase-là, parce qu'il ne peut pas dire le mot rat. Il peut dire, moi, je me sens pas bien de ce qui se passe, parce que moi, je suis triste, parce que j'ai perdu mon fils Yosef, et puis, mes amis, si vous allez prendre. Mais il ne peut pas dire, vous m'avez fait du mal. Le mot mal, il ne peut pas le dire, il y a quand même. Parce qu'il y a quand même nous, lui, il voit très bien, normalement, il est censé savoir que, comme Madé ce que vous voulez, mais c'est-à-dire, il voit toujours le bien qui se cache, il voit toujours le tov. Il sait très bien qu'il n'y a rien de rat, mais etc. S'il arrive à dire Lama Arotemli, c'est Knistera Darki Mehachem, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est complètement bouché, qui s'est complètement caché de la part d'un cadavre. Donc même Yaakov Avinu, finalement, il n'arrive plus à voir le rat, le tov qui se cache derrière le rat. Lui aussi, il est un peu perdu. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Gemara, que les Bessorot Raot et les Bessorot Tovot, tant que le Shem n'est pas Echad, c'est pas la même Bracha, après c'est la même Bracha, C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir dans le Ra, dans le Tov et le Ra, on n'arrive pas à les identifier l'un l'autre. Si on fait une bracha qui est pas la même, c'est-à-dire que c'est l'humain et c'est normal, et il n'y a pas besoin de se formaliser. Au contraire, celui qui pourrait dire l'inverse de ça, alors il est au-dessus de ce qu'il pense qu'il est. C'est que finalement, dans le Ra, on n'arrive pas vraiment à voir que c'est dans le processus d'un Tov. Peut-être qu'il y a des gens exceptionnels qui arrivent à le voir. Alors que c'est pour ça que le Tov, on dit à Tov Metiv, et le Ra, du Barodayemet, parce que nous, on perçoit ça comme deux choses différentes. Parce que le Yud-Kevavke, il n'est pas Echad, parce qu'il n'y a pas Shmo Echad. Alors que plus tard, quand il y aura Shmo Echad, alors personne va dire Barodayemet, il n'existera pas. On dira que à Tov Metiv. C'est-à-dire, même sur des événements qui auront l'air une piqûre, comme un médecin qui va faire une piqûre à un malade, alors. Lui, il sait très bien que ça lui fait mal sur le coup, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais bête. C'est les méchalines classiques, ça veut pas dire, on les connaissait. Ça veut dire qu'en vérité, si le chef du Kivavke disparaît pour Parashot-là, ça correspond à le Maaseh Avot Ibed Labanim qu'il y a dedans, c'est que ça correspond à la galoute. Et quand Yaakov Avinu, il est en Égypte et qu'il vit là-bas, il vit bien, etc., et qu'après il va être enterré, ça correspond à la fin de la galoute et au début de la Géoula. Alors, quand est-ce qu'il revient? Alors, il revient à ce moment-là. D'abord, il revient à deux moments. Il y a deux. Le premier, c'est quand il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a voulu leur dévoiler la fin. Tous les enfants, ils sont autour de Yaakov Avinu. Donc, Yaakov Avinu, il y a les 12 Shvatim. Ils sont tous des tzadikim, ils sont tous autour de lui. C'est le seul cas où c'est arrivé comme ça, où il y a un événement avec Yaakov et tous les enfants. Et il leur dit, voilà, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il a une des voix qui commence, et il dit, moi, je vais vous raconter ce que je suis en train de voir. Et pam, ça s'arrête. Et là, Yaakov Avinu, il a peur. Il dit, il y a un problème chez mes... il doit y avoir un problème sûrement chez mes enfants. Ouais, comme il dit, j'ai peur qu'ici, il y ait quelque chose en dessous dans ma descendance. C'est pas en dessous dans ma descendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chlémoute complète. Et s'il n'y a pas une chlémoute complète, la Géoula ne peut pas arriver parce qu'en fait, il est en train de leur dévoiler la Géoula. Il dit, il y a peut-être un problème qui fait que la Géoula peut arriver. Et lui dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le pshat, c'est quoi? Shema Israël, écoute Israël. Yaakov Avinu, c'est Israël. Hashem Elokeinu, Hashem, notre Dieu, le Yud Kivavke qui est à nous. Eh ben, c'est un Hashem Echad. Il est Hashem Echad. Il est Echad, mais Ardoud Moua. On n'a pas de Safek, on n'a pas de problème. C'est ça qu'il dit. Shema Israël, c'est lui Israël. Ils sont entendus parler à lui. Hashem Elokeinu. Le Yud Kivavke qui est notre Dieu, il est Echad, il est Shalem, il est Bechlemout. N'aie pas peur. Alors à ce moment-là, il y a quand même une vidéo, il dit Baruch Shem Kivod Marcoto Lolam Vaed. D'accord? Ça veut dire qu'il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et en fait, l'expression du Shema Israël, c'est l'expression de l'Ardout Moua du Shema Hashem. Oui, le Shema Hashem, ne t'inquiète pas, il n'a pas disparu. Il y a quand même une vidéo, il s'est dit, tiens, ça continue cette histoire. Il y a encore un problème. Il dit, non, non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien. Alors pourquoi il n'a pas voulu leur dévoiler le quête? Ça a remonté, il n'a pas voulu dire, il a dit, ce n'est pas le sujet du cours, je ne vous dis pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que comment ils l'ont rassuré? Ils l'ont rassuré sur la chose sur laquelle il avait un problème. Si le quête, il ne peut pas être dévoilé, ce n'est pas juste un problème de dévoilement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème par rapport au quête, que s'il y a un psoul dans la descendance de Yaakov Avinu, ben le quête, il ne peut pas arriver. Il y a un problème ici qu'il faut régler avant que la Géoula puisse arriver. Le dévoilement et la réalisation effective, ils sont liés l'un à l'autre. Et quand il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il dit non, t'inquiète pas, le Yud Kevavke, il est Echad. C'est-à-dire que le Yud Kevavke, c'est le Shem du quête. Au moins de ça, on peut apprendre. Le Yud Kevavke, c'est le nom d'un va éclairer au nom de la Géoula, dans le sens, comme on a dit, Vaya Hashem, le Melech Hashem, le moment du quête, c'est un moment où il y a un guilouille, et finalement, les gens, ils ont plus de doute, ils arrivent, il y a le Ra et le Tov, on a fait la même bracha, le chef du Kivav, il est lu comme il est écrit, il n'y a pas un côté Nistar et un côté Bilé, tout est clair et tout est dévoilé. Maintenant, pourquoi il y a comme il n'a pas voulu dévoiler, ça, je ne sais pas. D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il ramène dans Zohar, je ne l'ai pas trouvé, il ramène dans Zohar que quand la Gemara dit que Hachem il va sortir le soleil de son écorce et que ça va éclairer et que ça va être une réfoua pour les tzadikim, Et Sarah, pour les Rechaïm, il dit, ça veut dire quoi qu'il va sortir de son mémoire ce soir? C'est-à-dire qu'il va sortir le Shemit qui va fké, sa clipa de Hadlout, c'est dans la façon dont on le lit, et il va éclairer les Gabrès, il n'aura plus besoin de le prendre de manière différente, et c'est ça qui va être une grande Torah pour les Tzadikim, parce qu'ils vont voir les choses de la manière la plus claire possible. Puisque là, on n'a pas le droit de le dire, à part au Beth Amikdash à Kippour, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le prononcer comme il est écrit. Alors ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, alors c'est un Ramban. En réalité, quelque part, on aurait pu en faire un cours à part de ce Ramban, mais on fait un cours à part. On va s'arrêter un peu sur ce Ramban. Le Ramban, il dit comme ça, c'est un Ramban hyper important, parce que c'est lui, il nous montre un peu c'est quoi l'enjeu de ce qui s'est passé ici. Et après, on passera à la troisième partie du cours, c'est Yosef et Yehuda, le Baal Tshuva et le Tzadik. Yosef, Yehuda, le Baal Tshuva, Yosef, le Tzadik, et comment ça correspond à la Gemara. Alors, Vaikri Yaakov Eretz Mitzrayim, Shuva Yisrael. Kvar Hizkarti, le Ramban, j'ai déjà mentionné, qui Redet Yaakov, le Mitzrayim, hu Galutenu. Que la descente de Yaakov en Égypte, ça, c'est notre exil à nous. Ayom, aujourd'hui, Beyat Hayarvi, dans la main de la quatrième bête sauvage, remis à Récham. Là, il nous dévoile le Ramban. Kibne Yaakov, Em Matzman, Sivevu, Rentam Sham, et Michirat Yosef Achet. C'est eux qui ont provoqué la descente en Égypte à cause de la vente de leur frère. Ouais, vous vous rendez compte du Ramban ce qu'il dit? Ça veut dire qu'en réalité, Vadaï, qu'il allait avoir un Inyan de Géoula, de Galout, Hachem, il avait annoncé avant, mais nous, et tes enfants, ils seront. Mais il n'y a pas marqué en Égypte, il n'y a pas marqué que ça devrait se passer comme ça. Tous les scénarios sont possibles. Et en fait, le Ramban, plusieurs fois, il fait remarquer ça, qu'il y a des événements qui ont causé, qui vont aller d'Afka en Égypte et pas ailleurs. Et il dit, et là, le fait que ça a causé qu'ils soient allés en Égypte, eh ben, c'est ça qui cause notre exil aujourd'hui, Beyad. Dans l'Occident. Et Yaakov, il est descendu à cause de la famine. Et Chachav, il a pensé être sauvé grâce à son fils dans la maison de celui qu'il aime. Il part au Ev et Yosef, parce que Paro, il aime Yosef. Kebeno, c'est comme un fils pour lui, pour Paro. Il adorait Yosef. C'est son prince favori. Et en fait, le projet, c'était quoi? C'était de repartir de là-bas, quand il n'y a plus de famine. Moshe Amrou, la gourba qui a duré la zone charlavadecha, qui ravait d'un rabbi Redkenal, nous on est venu parce qu'on n'a pas de pâturage et parce qu'il y a beaucoup de gens. On va en partir quand la famille est terminée. Veino Loalou, mais ils ne sont pas remontés. Aval Arach Alem Magalout, ça a continué sur la Galout. Ou Met Cham, Yaakov, il est mort là-bas. Lui, il pensait repartir. En fait, alors que vous dites que Amrachi, que la Galout, elle s'est arrivée quand Yaakov, la famille, elle s'est arrêtée quand Yaakov est arrivé en Égypte. Vous disiez comme les autres Mepharchim, plutôt que dans la famille, il a duré 7 ans. L'homme échappé, sauf, il avait largement le temps de repartir. Mais il n'est pas reparti. Ou Metcham, il est mort là-bas. Véalou, Atzmotav, ils ont remonté ses os. Vézikne Paro, Vesara, Elou. Et c'est les anciens de Paro et ses princes et ses ministres qui l'ont remonté. Véasouimo et Velkaven, et ils ont fait avec lui un deuil lourd. Véchel. Nous, il me remit Védom, et ainsi on est avec Rome et Védom, c'est la même chose. Achinou, c'est nos frères, Hessi, Bodou, Biat, c'est nous qui avons causé notre propre exil, qui cartou Brit Marim, parce qu'on a conclu un pacte avec les Romains. Et Agrippa, Samelech, Aharon, les Beïtcheni, Barach, Alev, les Ezra, et c'est lui, en fait, on est parti chercher de l'aide chez les Romains à la fin du deuxième état de village. Et à cause de la famine, il qui doit acheter Yerushalayim, les gens de Yerushalayim, ils ont été capturés, donc ça correspond à la fin du deuxième état de village. Mais à Galout, Arach, Alenouméod, elle est très longue sur nous. L'Onoda Kitso, Kesharyot, on ne sait pas comment ça se passe. Mais à Nachnoumo, Kemetim. Donc c'est quoi, il y a quand même nous qui est mort, c'est que nous, on est comme des gens morts. Omrim, on dit, Yavshua, nous, nos os sont secs, Nixar, nous, là, nous, et on se sent décrété, qu'on n'a plus de vie. Donc, en fait, il dit que la mort de Yaakov Avinu, c'est la mort du peuple juif. Nous, on a l'impression d'être morts. On est comme des gens morts. Il n'y a plus de neshama dans le peuple juif. C'est tellement long, c'est tellement épuisant que le peuple juif, il perd de sa neshama, il reste comme un corps qui est mort. Yaakov Avinu, en fait, il est remonté dans l'extrême, mais mort, le corps. Il ne restait que le corps. La vie était partie. Et ben, nous aussi, au moment de la Géoula, on ressemblera à un corps mort. Et qu'il n'y en a plus de crayon, et la Géoula, à ce moment-là, va arriver. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, c'est un bon signal que les gens soient en dépression. Non? Ouais, c'est ça, évidemment. Évidemment. Et c'est ça, c'est limite un siman tov, comme bien fait. Veyalu otanu mikol ha'amim mincha l'Hashem. Et ils vont nous monter de tous les peuples, mincha l'Hashem, un cadeau pour Hashem. Veyé lahem evel kaved, birotam. Ils vont avoir un grand deuil quand ils vont voir notre kavod. Ils vont dire quoi pour... C'est ça qu'on honore, ces gens-là, ces gens qui n'ont aucun sens. Va anachnu nirei benikmat Hashem, yekimenu, il va nous redresser, venir et falam, on va vivre devant lui. C'est-à-dire, on va avoir une triatamétime, mais une triatamétime religieuse, une triatamétime d'être dans ce qui est juif. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on a l'impression que les juifs, il n'y a plus aucun sens. Les juifs, c'est ça qu'il dit le Rambam. C'est ça le maaser avec la convenue. Ouais. Mais dans le clan, la clan Tadvari, il reste plus. Évidemment, on n'est pas mort complètement parce que pas. Mais ça veut dire qu'en vérité, on a l'air, le peuple juif, il a l'air qu'il reste plus rien. Il a perdu de son identité. Raconte une fois, il a dit. Il nous reste peut-être 10% de la 10%. Et même ça, je ne sais pas si vous rassurez. On n'a plus le reggae chez Oudi, comme vous avez les gens avant la vie, le sentiment de Hitlavout, qu'un juif faut avoir le sentiment d'être procuré, que beaucoup, il est presque mort. Il y a des gens qui parlent de Béclal Israël, on ne parle pas sur chaque individu. Et ça correspond à Yaakov, en vérité, qui meurt et qui remonte en Eretz-Israël dans le cercueil. Il remonte pas vivant, c'est ça le maaser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une indication que nous aussi, quand on va remonter en Eretz Israël à Mont Nagula, on aura l'impression comme si on est mort. Au sens mort spirituel et religieux, dans le sens, on aura l'impression qu'il ne reste plus rien. Et on va remonter, et eux, ils vont nous voir remonter, et ils vont être endeuillés. Alors là-bas, ils étaient endeuillés pour Yaakov, mais là, ils vont être endeuillés parce qu'ils vont voir tout le kavod que maintenant on a, et ils vont se dire, oh là là, c'est quoi ça? Ils vont être terrifiés par ça. Donc ça, c'est un autre élément de Maaser HaTzimra de dans cette paracha. C'est parce qu'en vérité, oui, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. C'est ça l'autre. Yaakov Avinu, le maître, on l'a vu avec Brantan, il n'est pas mort. Il est mort physiquement, mais il n'est pas mort, bien sûr. C'est là que Mara dit, ah, mais ils l'ont enterré. Oui, mais il y a un passage que c'est Machma qui n'est pas mort, parce que sa descendance, elle est en vie, lui, non pas en vie. Mais il vit encore à travers. Dans le sens que, Alpi, Machin, ce qui a l'air, c'est que les choses, elles sont finies, que tout est perdu, que c'est tellement long que les gens, ils ont complètement renoncé. Et ça, c'est le corps de Yaakov qui a l'air mort, et qui est mort en vérité. Et en vérité, c'est que une impression. Mais Yaakov Avinu, il ne meurt jamais. Le père d'Israël, il ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'à Kadosh Barouh, il va le récupérer. Il va nous faire revivre et il va nous mettre. Et c'est ça. Hein. Et en fait, c'est ça la fin de la paracha, que Yaakov Avinu est mort et qu'il est remonté en Eretz Israël. C'est un grand. C'est vrai que ça, c'est rassurant. Parce que des fois, on se dit. On se dit qu'est-ce qui nous reste? Tout le monde se pose la question, mais nos ancêtres, ils n'ont pas réussi. Nous, on va... Et puis ça continue, ça s'arrête jamais, l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Mais quelque part, plus quelqu'un, plus ils vont être Mikaesh, Ben David Ba, et là, il y a un scénario comme ça. Et chaque parenthèse sur la boule de Machère, c'est des scénarios différents. Alors, Ben David, il vient comme si les gens, ils sont Mikaesh, ils renoncent à tout ça. C'est-à-dire, ça y est, il y a un moment où les Juifs sont épuisés, ils ont pas plus mal quelque part. C'est aussi un scénario qui existe. C'est pas qu'il faut souhaiter ça, mais ça veut dire qu'il y a un, il y a, il y a, il y a, il y a un message d'espoir dans le fait que les choses, il y a plus de... En soi, c'est un siman de Géoula qu'il y a plus de... Alors ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est un autre sujet qui tourne toujours autour du même sujet. C'est l'histoire de Yosef et Yehuda. Au long des parachutes de Mikesh et surtout Rengash. Alors, il y a un sujet très intéressant. Juste d'abord, une petite remarque, que d'où est-ce qu'elle est venue D'où est-ce qu'il est venu le problème que les Shvatim, ils avaient pendant ces années-là, pendant ce temps-là, où ils étaient tournés en bourrique et qu'ils ne savaient plus, qu'est-ce qui leur arrivait. Ni Joseph. Et la même personne de qui vient le problème, c'est lui la solution. Et en fait, comme il leur dit, mais moi, Hachem, quand il leur dit à Joseph, il leur dit, c'est Hachem, il m'a mis là pour vous nourrir. Donc en fait, maintenant, on va voir qu'en fait, le dévoilement de Tsouda Yosef et le dévoilement de Yosef correspond aussi quelque part au dévoilement de la Géoula. Et Rav Moshe, il a entendu ses rabbinim, ça, qui disait toujours, réfléchis bien, que la personne que tu penses que c'est lui qui amène le problème dans ta vie, eh ben, en vérité, c'est là-bas que ça va venir à la Géoula. Il dit, réfléchis bien à ça, et toi, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Mais il ne dit pas, il réfléchissait, et je vous laisse avec ça, et réfléchissez à ce que ça veut dire. En réalité, là où tu penses que le problème il est, ben, c'est là-bas la solution. C'est vrai que le problème vient de là-bas, mais finalement la solution vient aussi là-bas. D'accord? Ça, c'est juste pour réfléchir. Maintenant, en vérité, Ani Yosef, c'est aussi un guiloui de Géoula, parce qu'il y a un midrash, ouais. Le Midrash dit que comme Yosef il s'est dévoilé en pleurant, alors aussi la Géoula elle sera en pleurant. Ça, il dit. Parce que au moment où il s'est dévoilé, il a pleuré. Yosef il pleure souvent. Et là aussi à ce moment-là, il pleure. Je ne l'ai pas mis, je croyais que j'avais mis déjà. Je n'ai pas mis. C'est pas grave. D'accord? Yosef, c'est. Alors, mais qui c'est qui a provoqué le dévoilement de Yosef? C'est Yehuda. Alors, ça, c'est un midrash simple. Ah, voilà, je l'ai mis en haut. Pardon. Va'yitened kolobipri, il a pleuré. Et Shem Shlopiyes, Yosef et Echav, il avait prié. La dernière qu'il les a rassurés qu'en pleurant. Car, quand je vous renoue, Goélet Israël, il habite en prière. J'ai marre, mi fri à vous, en pleurant, ils viendront, mais ta chanonie mobilem, avec des situations, je vous ai. C'est-à-dire qu'il y a un chissaron dans le guilou de Yosef. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, on voit que le dévoilement de Yosef, eh ben, il correspond au dévoilement de la Géoula. Pourquoi? À quoi ça correspond? Toujours autour de la midi, encore une fois, que les fins que ces parachutes-là, ils parlent de la galoute à nous et de la Géoula qu'on va avoir. Maintenant, ça, c'est une autre dimension qui est hyper intéressante. Et ça, moi, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. Il dit comme ça. Yehuda, c'est lui qui a travaillé pour que des Yosef se dévoile. C'est le Midrash, il a ici dans le Midrash. Des eaux profondes, c'est un conseil dans le cœur d'un homme. Les Be'er c'est un machal et un puits profond rempli d'eau froide. L'eau était froide et belle, claire. Personne ne pouvait boire là-bas. Il a attaché une corde avec une corde, benima, et un fil avec un fil, meshira, des cordes avec des cordes, emena, et il a puisé de elle, veshata, il a bu, itrilo à col d'olive, mais tout le monde a commencé à puiser de car, ainsi, l'ozaziouda, meshiviliosef, davar al davar, atchéamadamibo. C'est-à-dire que il est parti chercher au plus profond de Yosef, le cœur de Yosef, il a travaillé au corps, comme on dit. Et tu te rends compte, et mon père, et tu nous avais dit. Et il lui harcèle comme quelqu'un qui va chercher le cœur derrière cet Égyptien froid qui nous rend fou depuis le début. Je vais aller voir ce qui se cache derrière. Et il lâche pas l'affaire. Il construit son idée jusqu'à qu'il a réussi à le sortir. Et là, Yosef, il dit à Yosef. Et c'est pour ça que le Midrash, je vais quand Hachem veut dire, Nigash Choresh, El HaKotzer. Le laboureur, il va se rapprocher du moissonneur. Choresh, c'est Yehuda, mais Kotzer, c'est Yosef. Yehuda, c'est le Choresh. Yosef, c'est le Kotzer. Il est Bernard. Ça veut dire, Yehuda, c'est celui qui va prendre quelque chose qui n'est pas encore là, il va travailler et il va dévoiler les choses telles qu'elles se cachent derrière. Yosef, c'est le Kotzer, c'est celui qui arrive une fois que les choses elles sont déjà là et qui récupère. Ça veut dire les choses elles sont déjà sorties. Il n'y a pas de il y a rien de caché chez Yosef. Dans la chaîne de la Chassidoute et de la Kabbalah, on appelle ça Alma de Itkassia, Alma de Itgalia, le monde dévoilé, le monde caché, ce qu'on appelle aussi Le Baal Tchouva ou le Tzadik. Yosef, c'est le Tzadik Yesodom, c'est le Tzadik. Yehuda, c'est le Baal Tchouva. Et en vérité, le Midrash nous dit que dans les deux, il y a le nom d'Hachem. Yosef, qui a sanctifié le nom d'Hachem en cachette, avec l'histoire de. C'est-à-dire qu'il n'a pas, c'est pas des personne, personne, aucun juif n'était au courant de ce qui s'est passé avec lui, avec l'histoire de la femme de Potiphar. Aussi fou à la, oh, Tachat Bishmo, j'ai la Kadosh Baruch. On l'a appelé Yedud Bi Yosef Samo. On lui a rajouté un mot. Yehuda, c'est qu'il est Shem Shamim Parishad, il craque Koulo al Shmo, j'ai la Kadosh Baruch. On l'appelle Yehuda, c'est Yud Vav, Dalet, il y a tout. D'accord? Alors que Yosef, il a le Yud, le Vav, on lui a rajouté un Ré, mais il n'a pas tout. Yosef. Il lui manque le dernier ré. Il lui manque le, il a le yud, le ké, le vav. Il lui a rajouté le ré, mais il n'a pas le dernier ré. Alors, Yehuda, il a tout. Alors, comment ça se fait qu'Yehuda, il a tout? Yosef, il n'a pas tout. Alors là, c'est très intéressant. C'est, quand est-ce que Yehuda, ça correspond à quoi, Yehuda? Donc, le Icar du clan d'Israël, il faut comprendre, c'est Yosef, c'est pas Yehuda. C'est parce qu'en fait, Yaakov, il voulait Rachel, il voulait pas Léa. Et Rachel, c'est Yosef et Benjamin. Ça, c'est le Icar, c'est Akiret Abayit, c'est le Icar. Ça veut dire, c'est le tzaddik, c'est le juif parfait, le juif qui arrive à la Shoah. C'est Ani Yosef, qui soit en Égypte, qui soit chez son père, qui soit prince d'Égypte, qui soit dans la prison la plus profonde. C'est toujours le juif qui reste droit dans ses bottes, qui fait les 130 000 votes. C'est le tzaddik qui n'est jamais perturbé. Yosef, on voit jamais qu'il est perturbé par tout ça. Il fait pas d'erreur. Il est toujours Bémouda. Yosef, c'est le Icar du Israël dans le sens, c'est le juif dans sa perfection la plus absolue. Celui qui est toujours attaché à Kadosh, quelles que soient les circonstances. Yehuda, alors pas du tout. Yehuda, c'est celui qui reconnaît ses erreurs parce qu'il en fait des erreurs. Et principalement, on va juste s'arrêter un peu sur l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, vous vous rendez compte? Yehuda, il fait un truc. Même un juif le plus simple aujourd'hui, il aurait du mal à faire, il va avec une prostituée, quoi. Et bon, alors c'est pas de sa faute, d'accord, mais sauf c'est ça qu'il a fait. Et il crée comme ça la descendance du Machiav d'une manière un peu tordue, un peu cachée, comme ça, on comprend pas trop comment ça se passe. Mais évidemment, tout le monde s'interroge, mais pourquoi ça a toujours besoin de passer par des histoires comme ça? Donc c'est les choses, c'est la Hanagat Hashem qui est cachée et qu'on comprend pas. Et quand Yehuda, il est au Beit Din, donc vous avez le Beit Din, il a Hever avec lui, il a les Gdolim, comme ça, il est au Beit Din, il dit, Tamar, on tire le CRF pour la sortir de la maison. Elle lui dit, elle a envoyé, Vénichal Lémi et Lélo, Akerma, Lémi à Pétilim, et à Rotamor, etc. Regarde, ah, c'est à qui c'est. Et elle lui dit, Tzadka Mimeni. Et le Midrash de dire, Mimeni, c'est à Kadosh Baruch Hu qui dit ça, de moi. Ça veut dire, Mimeni Yatsadar, ça sort de moi. Cette chose-là, elle sort de moi. C'est-à-dire qu'en fait, Yehuda, il était à croisée de chemin. S'il reconnaît que ça vient de lui, que c'est lui qui a fait cette erreur-là, s'il arrive à reconnaître son erreur, alors Kadosh Baruch Hu, il dit ça vient de moi, et maintenant ma chère, il va pouvoir mettre. Mais s'il ne reconnaît pas, alors on tue Tamar, et donc on tue l'un des enfants qui sont morts. Donc c'est terminé, la descendance de ma chère, elle passe plus pareil. Il y a quelque chose, il faut recommencer à zéro. Quelque chose qui ne marche pas du tout. Donc en vérité, la plus grande mission que j'ai faite, je me rendais compte, Yehuda, c'est celui qui fait la mission de Nefesh. C'est celui qui se jette à l'eau le premier, Nachshon Ben Aminadab, qui se jette à l'eau. Alors Moshe, il dit ça, c'est une bien plus grande mission de Nefesh qu'il a fait. Ça. De reconnaître devant tout le monde, c'est lui qui est que la chose qu'il reproche à Tamar, oh, c'est terrible, celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait, la parente. Et en fait, ça vient de lui, le Gadol Hador, le Av Beit Din. Imaginez aujourd'hui dans Beit Din, qu'un Av Beit Din il dirait un truc pareil. Il est condamné à vie, le type. C'est les Avdil, la fait Avdalot, c'est pas Quatennens qui va avoir une histoire, c'est terminé. Il n'a plus de droit de parole sur la place publique, quoi. On ne veut plus entendre parler de lui. Et Yehuda, il dit, c'est moi, voilà. Allez, qu'est-ce qui reste maintenant? Vous voulez. Moi, je reconnais, c'est vous. Et il dit, le Rav Moshe, c'est ça le Dalet de Yehuda. Yehuda, c'est le nom d'Hachem, et le Dalet, c'est Dalotiv Eliyoshua, c'est le Dal, c'est le pauvre. C'est, je suis moi, d'accord. Moi, j'enlève tout. Moi, j'ai rien de moi. Veli-Yoshua, Hachem, il va me sauver. Moi, j'accepte mes erreurs et je reconnais. Et je suis comme un bon, moi, j'ai rien. Voilà. Vous voyez, voilà, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est moi. Et c'est David aussi qui est comme ça. David, c'est un Baal Tshuva. Le Midrash, il dit, là, j'ai ramené, Maïr Tivné ou David Ben Ishaï, Vene ou Maguever ou Kamal, donc David Ben Ishaï, chez Hekim Oula Shel Tchouva. C'est lui qui a redressé l'Oula Shel Tchouva. Parce que, pareil, David Amer, qui se passe des trucs bizarres avec Batsheva. Et puis toute sa vie, il pleure, il reconnaît sa faute et il dit oui, mais encore une fois, ça va passer par là, le Mashiach. Ça va être Batsheva, ça va être chemin. Ça veut dire que Yosef, c'est le tzaddik, c'est le kotzer, c'est les germes, c'est les choses, une fois qu'elles sont arrivées à maturité. Yehuda, c'est celui qui creuse et qui va chercher derrière, et qui va chercher derrière le juif la chose qui s'est perdue. Donc il dit, c'est pour ça qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, on voit que les juifs, ils s'appelaient au nom de Chevet, du Ephraïm ou de Yosef. On les appelait au nom de Ephraïm et de Yosef. Par exemple, on les appelait Shérit Yosef. Ou alors, on les appelait Ephraïm. Et puis, à la fin du premier Beth, parce que les juifs, ils avaient une dimension de tzadikim, malgré tout ce qu'on leur reproche, sauf ça, c'était des gens d'une stature extraordinaire. Et à la fin du premier Beth Amikdash, le Prinat Yosef a disparu, et Rachel, elle pleure, les Vakal, Baanéa, et Enedou, ils sont pas là. Et ils disent, ils sont pas là parce qu'ils sont vraiment partis. Ça, et les enfants de Rachel, ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'il a pris dimension de Yosef dans lequel Israël. Le tzadik Gamour, celui qui est tzadik et qui faute pas, alors il disparaît. Maintenant, c'est terminé, maintenant, ça s'appelle des Yehudim. Les Yehudim, ça commence, Ish Yehudi, Ayam, ouais, ça commence, à la destination de l'Église, il n'y a plus de Yosef, il n'y a que du Yehudi, il n'y a que du. C'est le juif qui est dans la Vera et qui fait Tchouva et qui faute et qui fait Tchouva, etc. Mais la force de Yehuda, c'est que le Baal Tchouva, lui, il a la force de prendre, d'être dans le Rocher et de trouver le chemin là-dedans. Alors que Yosef, c'est le juif qui faute pas. C'est toujours là, en fait, Yehuda et Yosef, c'est toujours le point d'équilibre entre le tzaddik et le Baal Tchouva. Il y a toujours les deux dans le côté. Il y a les deux Mashiach, il faut ces deux dimensions. D'accord? Il y a Yosef, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. D'ailleurs, ensemble, c'est intéressant, il dit la gématria de Yosef et Yehuda ensemble, ça fait Makom. Parce que il y a marqué que Yosef, Yaakov, il a envoyé Yehuda et Yosef. Vous voyez, c'est un passage qui est très bizarre. Parce que quand Yaakov, il envoie Yehuda aller à Goshen pour préparer le terrain, comment c'est marqué? Il dit, viens Yehuda, Shalach, les Panav, El Yosef, vers Yosef, les Horot, les Panav, Goshna. Alors Rachid dit, c'est quoi les Horot, les Panav, Goshna? C'est l'Ifnot, le Makom, c'est pour préparer le Makom. Ou les Horot, et pour montrer, et Achet, comment il va s'installer là-bas. C'est marqué dans le Vazou qu'il a envoyé vers Yosef. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir Yosef, et ensemble, les deux, ils vont préparer le Makom du Père d'Israël. Dans le sens conceptuellement parlant, comme on dit ici. Ça veut dire que Yehuda et Yosef qui font ensemble la gematria de Makom. Makom, c'est la gematria du Nechem en carré. Ça veut dire, en fait, il y en a comme 186. En fait, Yud fois Yud, ça fait 100. 5 fois 5, 2 fois, ça fait 50. Et 3 fois, 6 fois 6, 36, ça fait 186. Makom, c'est la gematria de Nechem, là, au carré. Et chaque lettre, vous la mettez au carré, ça fait le carré, c'est l'expansion. Ça veut dire. Bon, c'est le nom d'Hachem que le Makom dans le sens la possibilité d'existence des choses, comme on avait développé dans Parashat Yetzé que le Makom c'est la possibilité d'existence des choses et les conditions préalables pour réunir pour que les choses puissent exister. Et donc, en fait, quand il y a Yehuda, il va vers Yosef, l'Ifnot lo Makom Rachidi, pour préparer l'endroit. C'est-à-dire qu'ensemble, ils sont en train de préparer le Makom de quoi? De la Géoula des Juifs. L'Égypte, c'est qu'une étape, après, ils vont sortir. Alors, ce qui manque à Yosef, en fait, le Hé, qu'on a dit que dans Yosef, il y a Yud, Ké, Vav, il n'y a pas le dernier Hé. La fin du Giloui, c'est Yehuda qui l'a. C'est-à-dire, dans le sens, il faut toujours se rappeler de ça. Que quand quelqu'un se trouve dans un milieu hostile, dans un monde qui ne correspond pas à ce qu'il est, alors s'il essaye de s'adapter, il se fait manger. Mais au contraire, s'il n'essaye pas de s'adapter, alors la différence qu'il cultive avec le monde dans lequel il se trouve, eh ben, c'est ça qui lui permet de s'affirmer ensuite. Donc en fait, Yehuda, il a réussi à sortir de son prochain personnel, de ce qu'il a fait, et à reconnaître et à amener le Ham d'Israël vers Yosef. Dans le sens, il va vers Yosef. C'est Yehuda qui va vers Yosef. Enfin, Yehuda, il va vers Yosef. Yosef, c'est le tzaddik. C'est évident que la Shlemout, à la fin, c'est le tzaddik, ce n'est pas le Baal Tchouva, la Shlemout. dans le sens. Dans ce monde à nous, le Shlemout, elle est plus dans le Baal Tshuva, parce qu'on est tous des Baal Tshuva, hein. On ne peut pas se leurrer, hein. Il n'y a pas d'autres pourris, on n'est pas des on est tous un peu Baal Tshuva sur quelque chose. Mais, sauf la Shlemout absolue, le Icar de la Kavanah de Yaakov Avinu, on a dit, c'est Rachel, et Rachel, c'est Yosef et Benyamin. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, lui, il voulait créer un peuple juif, de tzadikim. Moi, quand je vous il a fait en sorte que Léa arrive, hein, qu'il y ait Yehuda qui arrive, et qu'il faut préparer aussi la suite, qu'il y aura des juifs, il y aura des, on sera des Yehudim, on sera que des Baal Tshuva, on sera pas plus que ça. Et Chazal, ils disent que le vrai ennemi de Esav, c'est Yosef. Pourquoi c'est Yosef? Parce que, je sais ça, c'est quand il est né le Satan de Yosef, alors Yaakov, il est parti de Esav. C'est-à-dire que Yosef, en fait, le vrai juif, dans son éclat le plus absolu, c'est Yosef. Et c'est lui qui s'oppose à Esav, qui est le rachat et qui veut casser. Parce que c'est celui qui ne rompt jamais. Il y a Yosef, c'est celui qui veut casser. Mais si on n'a pas Yehuda qui va vers Yosef et qui prépare le Makom, qui prépare le Amistad, qui introduit cette notion de Hodaa et de Tshuva, ça veut dire, eh ben, on s'est trompé, eh ben, on reconnaît qu'on se trompe. Alors, Yosef, il ne peut pas exister. À un moment, il n'existe plus. Il disparaît complètement du circuit. Parce que ce n'est pas possible comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, dernière chose, on va finir avec ça, c'est que, vous avez vu, il y a, dans la bracha de Dan, il y a un truc qui n'a rien à faire là. Et donc, qui est rien à voir avec Dan. Et lui, c'est Kishuatra qui m'tiachem. Vous savez, la bracha de Dan, il finit par l'Ishuatra qui m'tiachem. En fait, Moshe, il répète ça souvent. Il dit, pourquoi c'est chez Dan, l'Ishuatra qui m'tiachem? Il dit, Dan, c'est le plus petit des Shvatim, le plus Yarout chez Vashvatim. Le moins, le, chez les Shvatim, le plus faible, celui qui a été sorti du dernier Kavod, c'est Dan. C'est ceux qui sont au bout du Kavod. D'ailleurs, ça correspond à notre évêque, dans lequel on est. C'est un autre chiffre. Dans le Tevet, c'est Dan. Parce que dans Tsira et Tsira, vous avez chaque mois, ça correspond à un Chevet. Le mois de Tevet, c'est Dan. Et Tevet, c'est le mois le plus bas de l'année. Et donc, Dan, qui est le Yarmouth Sheba Shvatim, c'est chez lui qu'il y a l'Ishuatra qui est caché. Pourquoi? Parce que justement, quand est-ce que quelqu'un, il espère. Le Dan, c'est celui qui porte en lui l'espoir parce que c'est lui qui se sent petit. C'est celui qui se sent pas. Qu'il n'y a pas comme les autres. Il voit les autres devant lui, les autres juifs, il voit ses autres frères, il dit purée, moi je suis pas au niveau. Et donc, il se tourne vers la Kadosh Baruch Hu et il dit l'Ishuatra qui me dit Hachem. Donc en fait, si on résume comme par rapport à ces trois Shvatim-là, vous avez Yehuda, c'est celui qui apporte la tshuva. Yosef, c'est le résultat, c'est le tzaddik, c'est le Ikar Abayit, c'est le Ikar de Yaakov Avinu. Et ça suffit pas. Ça, c'est le résultat, mais c'est pas le travail. C'est le kotzer, celui qui récolte. Une fois que les choses sont là, il récolte. Les choses sont là, elles sont là, le travail en amont de Chorev, de préparer la terre, de préparer le Makom. Yehuda, il prépare le Makom. C'est celui qui l'amour. Il prépare le Makom. Il prépare tout pour que Yosef puisse arriver. Parce que si tu ne prépares pas derrière, il n'y a rien qui peut amener. Donc Yehuda, c'est celui qui amène le Mashiach Ben David, c'est forcément Yehuda, parce que c'est lui qui, seulement lui qui peut amener la Géoula. Mais une fois que la Géoula est venue, alors on revient à la prina du tzaddik de Yosef. C'est lui qui finalement peut y arriver, et c'est lui qui va rester. Pas Yehuda. Mais Yehuda, c'est lui qui doit amener la Géoula. Mais il faut aussi Dan, c'est-à-dire cette tzipia l'Yeshua, cet espoir que quelqu'un ait dit, tellement il est Mikesh, c'est tellement. Il se sent petit, c'est Nachash à derrière celui qui rentre par terre. Il y a un serpent qui rentre par terre. C'est-à-dire qu'il est complètement attaché au sol, il n'arrive pas à s'élever. Et donc, il échoue à traquer. Alors, il espère qu'en fait, le Maaser Siman la Banim ici, si on résume un petit peu, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est la descente en Égypte. C'est le Ester Panim, c'est la galoute, c'est comme dit Raman, c'est la chose dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la Mechirat Yosef qui a amené cette Avera-là qu'on reproche aux frères, qui a amené que ils ont pris le tzaddik et ils l'ont mis par terre. Ils ont dit, toi, on ne veut plus de tzaddik. Tu n'existes plus. Alors, d'accord. Alors, vous allez aller en Égypte. Et il y aura un Rocher, et il y aura etc., tout ce qu'il y aura là-bas. Et Yaakov Avinu, Il n'a plus le nom d'Hachem, il n'a plus droit à Hakodesh, il n'a plus rien, c'est la canon dans lequel on est. Et ensuite, il y a Yehuda qui arrive et il creuse. Ben, chez Yosef, je lui dis, mais dis-moi vraiment, tu regarde ce qui se passe. Il creuse, et il fait ressortir Yosef. C'est-à-dire que Yosef, il ressemble à un Égyptien. Il ressemble, je sais pas qui c'est celui-là. Et de la personne qui d'où vient toute la, tout le mal qui a aux Juifs, ben, si tu vas chercher derrière, je te rendrai compte que c'est de là que va venir la Géoula. C'est Youssef qui va venir voilà son père. Donc ça, c'est une brina de Géoula. Mais il y a la deuxième chose qu'on a vue, c'est que Yaakov Avinu, quand il meurt et qu'il retourne en Israël, ça ressemble un petit peu, en fait. Il dit, c'est le Maaser que nous, on aura l'impression qu'on est comme des gens morts et qu'on va arriver, et qu'à ce moment-là, quand je mourrai, il va nous rendre heureux. Donc, si jamais on arrive un peu à s'élever grâce à ça, c'est déjà pas mal. Et donc, Yeshua Tra qui vit nous, Hachem.
Bravo, Raph, quelle aisance, quelle prestance. Oh, t'allais.